Imagine you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details. CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Paris. 50 ans déjà, mai 68, quel héritage! En France, mai 68 a soufflé un vent de révolte et entraîné de nombreux changements de société. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Aujourd'hui, qu'évoque encore mai 68 pour vous? Est-ce une époque qui nous inspire, qui nous fait rêver? Qu'a-t-elle apporté dans le monde de 2018? Enfin, pour quelle évolution de société, y compris les droits des femmes, l'éducation, les personnes handicapées, la liberté d'expression, descendriez-vous dans les rues aujourd'hui pour militer contre les injustices ou vos droits? Tout au long du mois de mai, escapade audio, grâce à nos radiopartenaires et nos correspondants ici à travers le monde. Mai 68, 50 ans avec RTL et RFI, Europe 1, des professeurs, des écrivains, des historiens, Ciné Franco et les bandes sonores de l'Institut National des Archives France. Pour participer à nos émissions ou réagir, une seule adresse, potpourri@cut.fm. Mai 68, mai 2018, 50 ans de lutte et de liberté d'expression.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
France Inter.
France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuses qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information. Une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Que se passe-t-il quand les sexes, les générations et les cultures entrent en collision pour créer une famille vraiment moderne? C'est la question que lance Vénus, une comédie dramatique du cinéaste Aisha Marjara, produite par Joe Ballas, une femme transgenre qui découvre qu'elle est le père d'un adolescent prénommé Ralph. Présenté en première mondiale dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le film Vénus est actuellement à Toronto jusqu'au 21 mai au Cineplex Cinema Square Dundas. Vénus, un film magnifique, nécessaire, bouleversant, qui aborde le sujet de transgenre avec vérité de façon directe. La scénariste, réalisatrice de Vénus, Aisha Marjara, sera à nos micros dès 12h30 ce dimanche. Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, 16h à la République très très démocratique du Congo, 17h à Nice, 11h du matin à Toronto et je pense qu'il est 1h du matin à Sydney en Australie. Eh oui, Popourri Show, votre magazine de la francophonie démarre en partenariat avec Radio France Internationale, une émission très chargée aujourd'hui. L'ingénieur du son DJ Devera, Toronto Animation, production Eric Kader, quelque part sur la croisette. Et du 4 au 10 juin, ne pas rater, madame, monsieur, nous aurons besoin de votre contribution, de votre générosité et coup de pouce pour garder la seule, l'unique émission en langue française, Popourri Show, à l'antenne, du 4 au 10 juin. S'il vous plaît, aidez-nous et courez la chance de gagner un voyage pour deux pour le Costa Rica. Et vous pouvez nous écouter en direct chaque dimanche www.cut.fm pour télécharger nos émissions tout au long de la semaine, n'importe quand, www.popourrichaud.com pour nous écrire immédiatement popourri@cut.fm. Et oui, je vous rappelle, madame, monsieur, un grand merci à madame Ledoux qui sera des nôtres aujourd'hui, qui aimerait bien rencontrer des amis ici de la région de Toronto et surtout madame Marceline D'ailleurs, Marceline, la fondatrice, directrice générale de Ciné Franco à Toronto, sera des nôtres dans la deuxième heure, si tout fonctionne bien grâce au duplex. Sophie Torlotin et Elisabeth Legueret de Radio France Internationale, du magazine Les Cinémas du Monde sur la Croisette seront des nôtres. Et la photographe cinéaste qui nous présente le film Tranchant sur ce sujet de débat partout à travers le monde, Aïcha Marjara, qui est à Toronto pour le visionnement de son film en ce moment, en direct de Cannes. Et la Palme d'Or décernée hier soir à une affaire de famille du japonais Kore-eda Hirokazu. Eh oui, bravo, bravo. Aujourd'hui, en ce dimanche 20 mai, justement, nous allons faire le bilan du Festival de Cannes, édition 2018, mai 68 à la lumière du cinéma. Qu'est-ce qui s'invente après mai 68? Quel vent souffle sur les cinémas du monde? Liberté, sexualité, fraternité, sens du collectif. Comment l'énergie politique d'une époque s'est exprimée au cinéma? C'est tout cela dont il sera question à l'émission avec Pierre-Henri Delot, qui est chargé de la sélection de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes de 1969 à 1998. Antoine Debecq, historien critique de cinéma. Catherine Roudet, historienne auteur de l'ouvrage « Le cinéma militant à l'heure des collectifs ». Et Madame Marceline, fondatrice de Ciné Franco à Toronto. La grève de la SNCF en France continue à faire des victimes et j'y suis parmi ces victimes. Et une amie de ma tante, Madame Ledoux, est aussi victime de cette grève de la SNCF qui perdure. Et pour prendre notre mal en patience, je vais interpréter avec Laurent. Nous allons chanter le Big Bazaar à la SNCF, à ne pas rater. Et le prince Harry et Meghan Markle se sont dit oui hier à Windsor. Quelle belle cérémonie. Le fougueux révérend Michael Curry, prédicateur afro-américain, a livré tout un show à l'américaine qui fait jaser la planète. Et la petite phrase d'un évêque britannique qui a sidéré les Britanniques. Eh oui. Que se passe-t-il quand les sexes, les générations et les cultures entrent en collision pour créer une famille vraiment moderne? C'est la question que lance le film Vénus et nous aurons Aïcha Marjara, photographe cinéaste, et je pense qu'elle est à Toronto en ce moment. Élection Ontario, le ton est de plus en plus dur entre les trois formations politiques. Les Franco-Ontariens ont-ils un poids politique? Connaissez-vous les nouveaux mots qui sont entrés cette semaine dans le Petit Larousse? Gougoun et pète de sœur. Incroyable. Qui rentre dans le Petit Larousse, madame, monsieur. Connaissez-vous justement la signification de gougoun et pète de sœur? C'est délicieux. Envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Je vous offre un beau cadeau. Et puis, nous allons aussi parler des prévisions de nos partenaires, de nos bons plans, entre autres le festival de films Gay Inside Out. Il y a aussi Ciné Franco qui offre des événements tout au long du mois de mai et du mois de juin. Allez sur le site www.cinéfranco.com, /FR, événements. Et là, vous allez découvrir tous les rendez-vous. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. En direct de la Croisette, en duplex, s'il vous plaît. Après 10 jours de projection et les septiternelles spéculations, la 71e édition du Festival de Cannes a rendu son verdict hier soir. Une affaire de famille du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda et le palmarès politico-social de Cannes 2018, un message dans une bouteille selon certaines critiques. Nos collègues et critiques de cinéma nous donnent des indices et petits secrets de coulisses qui ont présidé au choix du jury, pour la Palme d'Or comme pour le reste. Donald Trump et Harvey Weinstein en invités fantômes. De l'Italien Marcello Fonte dans Dogman et son compatriote Matteo Garrone, les deux films se ressemblent beaucoup dans leurs principes et leurs sujets. Deux individus en proie à la brutalité du monde dans une cité hostile vont s'enforcer dans un peu plus dans la glauque misère et faire les pires des choix moraux. Un peu d'espoir quand même dans Capharnaüm de Nadine Labaki. Prix du jury dans ce film sur l'enfance mal aimée et là encore maltraitée des bas-fonds de Beyrouth. La résolution finale et son happy ending ne laissent finalement, là encore, aucune vraie perspective à ces personnages. Sans parler des très jeunes comédiens non professionnels qui les interprètent. Un film à voir absolument. L'Américain Spike Lee a été récompensé, oui madame, monsieur, par le Grand Prix pour le Black Klansman, polar aux allures de pamphlet contre le racisme inspiré de l'histoire. Le sujet des enfants maltraités a largement dominé le palmarès du 71e Festival de Cannes, remis hier, samedi 19 mai, par Cate Blanchett. Eh oui, mais le sujet qui fâche et qui a fait manchette à Cannes, c'est la grande question sur l'industrie du cinéma et des médias qui ne veulent pas en parler. Comment sont traités les Noirs au cinéma, particulièrement les femmes noires ? Pour Aïssa Maïga, fille de journaliste malien arrivée en France à l'âge de 4 ans, élevée en région parisienne, tout est parti de cette question toute simple. Comment se fait-il que dans un pays où j'ai grandi normalement, dans des collèges publics ayant appris les mêmes textes littéraires que les autres, on m'explique, les yeux dans les yeux, que je ne peux pas interpréter des rôles du répertoire classique ? Comment ? Comment ça se fait-il ? En France, dans un contexte de débat sur l'intégration souvent plombée en raison de ses dimensions politiques, les comédiennes noires ne veulent plus être de service. Elles ont lancé un pavé dans la mare en espérant qu'il devienne une pierre à l'édifice, celui d'une société multiraciale et prête à s'accepter comme telle.
Elles ont ébloui les marges du Festival de Cannes.
C'était émouvant, c'était fort, c'était puissant. Je sais même pas si c'était cohérent, mais en tout cas, c'était classe, quoi.
Des sourires et de la bonne humeur pour dénoncer un fait important, la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma.
Quand on nous appelle constamment gazelle, panthère, enfin voilà, tout le vocabulaire du safari, on a du mal à accéder à tout type de rôle. Et en dehors des stéréotypes, il y a aussi la question de l'invisibilité, le fait que certains castings nous sont tout simplement interdit d'une certaine façon.
Quelques heures avant le tapis rouge, Aïssa Maïga retrouve toute sa bande.
Contente, surexcitée. C'est un cocktail molotov d'émotions.
Ensemble, ces 16 actrices françaises, noires ou métisses ont co-signé le livre « Noir n'est pas mon métier » où elles racontent chacune leur expérience.
C'est des années qu'on attendait cette réunion, cette parole. Mmh. Et je crois que ça a libéré les paroles de toutes parce que je pense que de façon isolée, on y pensait mais qu'on n'osait pas le dire.
C'est une manière de dire on existe, on est là.
Profitez de nous.
On ne
demande que ça.
Et voilà. Au directeur de casting, prenez des notes.
Et comme le Festival de Cannes met les femmes à l'honneur cette année, c'était une occasion rêvée pour faire entendre leur voix.
On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, il y a une ouverture, il y a une écoute particulière. Ça, c'est très encourageant. Alors si en plus, derrière, ça se traduit par des actes, des décisions et des vrais changements, je pense qu'on sera très fiers.
Une révolution qui ne fait que commencer et que toutes ces femmes mèneront les points levés.
Oui, madame, monsieur, voilà ce qui nous fait vraiment réfléchir de ce qui s'en vient pour l'avenir même du cinéma, surtout avec l'affaire Weinstein. Ça ne dérougit pas et ça continue avec un grand producteur de cinéma en France qui a été, encore une fois, accusé d'harcèlement sexuel. Et en duplex toujours, de Cannes au château de Windsor, les buzz de nos médias partenaires. Du journal Express de Toronto, chronique voyage, écotourisme à lire absolument. Ils sont au Cap Haïtien, bien-être, terroir, saveur, au cœur d'une histoire grandiose. La journaliste Annick Chalifour de l'Express revient d'un sixième voyage de presse en Haïti, cette fois-ci dans le nord du pays. Ce reportage vise à promouvoir le patrimoine culturel d'Haïti, un important levier de son développement socio-économique durable. La journaliste était l'invitée de la direction régionale du tourisme Nord à Cap-Haïtien. La danseuse Sylvie Bouchard, la chanteuse Véronique Pastel et la metteur en scène et directrice artistique du théâtre La Tangente, Louise Nobert, ont rendu ensemble un hommage à la sculptrice Camille Claudel, toujours dans l'Express de Toronto. De hashtag ONFR, la campagne électorale a pris sa vitesse de croisière avec ses ratés et des scandales. Les libéraux en mode attaque envers leurs adversaires demandent notamment au chef du parti progressiste conservateur, Doug Ford, de faire toute la lumière sur la fuite des données dans la société gérant l'autoroute 407 près de Toronto. Les libéraux refusent toujours de s'engager pour un Ontario bilingue. Et enfin, si jamais vous avez des questions qui vous tracassent en tant que francophone lors de la prochaine joute électorale, eh ben, veuillez nous envoyer un message à popourri@cut.fm, popourri@cut.fm, et nous tenterons de peut-être rencontrer Monsieur Carole Jolin, qui est le président de l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, à notre émission la semaine prochaine, si tout fonctionne. Ils étaient 3 milliards de téléspectateurs pour assister au mariage de Meghan et Harry hier. Près de 6 millions de tweets, un souffle nouveau, enfin peut-être, sur la royauté britannique. Pas sûr. Doria Regland, la maman de Meghan, est une descendante d'esclaves des plantations de coton en Géorgie du Sud. Sa fille a reçu de nombreuses attaques racistes, notamment depuis sa relation avec le prince Harry. En novembre 2016, Buckingham Palace, tenez-vous bien, s'est fendu d'un communiqué où le prince Harry dénonçait le harcèlement, y compris sexiste, dont elle était victime. Le révérend fougueux Michael Curry, prédicateur afro-américain, a réchauffé la froide chapelle gothique St. George à Windsor avec un serment sur le pouvoir de l'amour aux accents passionnés. Certains invités étaient visiblement très mal à l'aise. Cependant, la petite phrase d'un évêque britannique à la cérémonie a sidéré bon nombre de Britanniques. Il a dit, je cite, le don du mariage réunit le mari et la femme dans le plaisir et la tendresse de l'union sexuelle et de l'engagement heureux jusqu'à la fin de leur vie. Une phrase qui n'aura pas manqué, en tout cas, de faire bondir certains internautes qui l'ont longuement commenté sur les réseaux sociaux. Pourquoi a-t-il dit union sexuelle ? Comme ça, c'est pas bien, s'est demandé un internaute sur Twitter. Un autre internaute a tweeté, c'est le mariage royal de loin le plus subversif auquel je peux penser. Une femme royale, franche, métisse, un prédicateur noir qui parle de justice sociale, la chorale noire qui chante la version gospel de Stand By Me. C'est petit, mais c'est magnifique. Diana serait sûrement ravie. Et vous, cela vous a-t-il choqué? Chronique du racisme subtil dans lequel les médias britanniques parlent de Meghan Markle à lire dans le Daily Show, un journal très coté à Londres. En France, selon le site d'information BuzzFeed News, une chaîne de restaurants très huppée de Paris ferait le tri entre ses clients, excluant malheureusement de manière systématique ceux d'origine arabe ou les femmes voilées. Selon des témoignages, les consignes du directeur iraient encore plus loin. Les places les plus exposées au public en terrasse seraient réservées uniquement aux clients jugés beaux et présentables. Incroyable. Mais où va la France ? Saisi de cette information, le défenseur des droits Jacques Toubon a ouvert une enquête. République démocratique du Congo, la lutte contre la sorcellerie, remède à la propagation d'Ebola. C'est une vraie crise qui secoue tout le pays. Plus de 40 morts cette semaine. Le Canada a déjà envoyé de l'aide et des vaccins. Rien à faire, de nombreux villageois sont convaincus que cette épidémie Ebola est provoquée par la sorcellerie qui s'abat sur leur village. En Tunisie, La restriction d'ouverture de cafés pendant le mois de Ramadan crée la polémique. Comment trouver de quoi manger si on ne veut pas suivre le Ramadan? C'est un peu dingue, n'est-ce pas? En Haïti, signe des temps, 30% de circonscriptions électorales devraient être réservées exclusivement à des femmes candidates lors des élections en Haïti, recommande un regroupement d'organisations de femmes et féministes qui se présentent sous le label COTEM. L'article 17 de la Constitution haïtienne, dite amendée de 1987, exige le respect du principe de quota de femmes dans les postes de décision de la vie nationale, notamment dans les services publics. Actuellement, seulement 4 femmes siègent au Parlement haïtien. Incroyable. L'article de la semaine du magazine Le Point, êtes-vous un femmelin? Êtes-vous un femmelin? Qu'est-ce que c'est? Les hommes sont-ils dépassés? Dans un essai scientifique publié chez Fayard, truffé de statistiques étonnantes, la philosophe Laetitia Strock-Bonnart raconte la nouvelle révolution féminine. Un article passionnant à lire absolument dans le magazine Le Point. Et dimanche prochain, le 27 mai, ne manquez pas un entretien exclusif avec Mariette Muller, présidente directrice générale de la World Trade Center de Winnipeg. C'est l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne. Et oui, la grève des trains en France cause toujours beaucoup d'inconvénients. Alors que la SNCF se félicite que le mouvement est très suivi, un sondage montre que les Français le soutiennent de moins en moins. Tant mieux. Même mon amie, tante Judith, qui vit à Rennes, vous savez, à une voisine, ces deux voyagent ensemble, vous savez, ils sont assez âgés. Madame Ledoux, qui a des courbatures, toutes sortes de petits bobos, eh ben, elle aimerait aller faire une petite balade à Lourdes. Qui sait, peut-être, il y aura bien un miracle. Mais malheureusement, comme elle est handicapée et non-voyante, elle sollicite donc votre bienveillance. À vous, Madame Ledoux. Madame Ledoux, est-ce que vous êtes là?
Tourisme Vermeville, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
C'est l'agence de tourisme.
Oui, monsieur.
Ah, bonjour, Madame Ledoux à l'appareil.
Oui, qu'est-ce que je peux vous faire pour vos services, madame?
J'aurais voulu un billet de train.
Oui.
Pour Avranches, Lourdes.
Alors, attendez, je note.
Mais vous avez de quoi noter?
Quelle date vous auriez voulu, madame?
Oh ben vous avez l'air plaisant, vous avez l'air de vous distraire et de vous amuser.
Ben tant qu'à faire pour travailler, autant travailler dans la bonne humeur, hein.
Oui, parce que vous savez, moi, à mon âge, hein, j'ai peu l'occasion de rire.
Vous regardez par là, dans la rue, il y a plein d'occasions de rire, vous savez.
Je ne peux pas sortir, monsieur, je suis handicapé à 85%.
Ben vous regardez par la fenêtre.
Je suis non-voyante.
Ben excusez-moi, madame, je vous excuse. Alors, vous êtes non-voyante? Handicapé à 85%.
Oui.
Et vous aimeriez partir d'Avranches pour aller à Lourdes.
Voilà.
C'est ça, madame.
Évidemment, en place handicapée, avec les réductions, pour l'aller.
Oui.
Et pour le retour, par contre, Lourdes-Avranches.
Oui.
Ben non handicapé, quoi.
Monsieur, vous croyez au miracle?
Pardon, monsieur.
Excusez-moi. Alors, à quelle date vous auriez aimé, madame?
Écoutez, j'aimerais partir début juillet.
Début juillet.
Monsieur, c'est ma dernière chance, hein?
Air-sense.
Ma dernière chance.
Ah, votre dernière chance. Excusez-moi, j'avais pas compris. Bon, alors, à l'aller, c'est la place handicapée, et au retour, bien sûr, tarif plein, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Ah oui, vous m'avez pas dit la date du retour.
Vous savez, un miracle, on ne peut pas savoir, hein?
En fait, vous attendrez là-bas?
Oui.
Et si ça prend longtemps?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Un peu une distraction à Lourdes, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Ah, monsieur, vous savez, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme distraction?
Je sais pas, le bridge, les cartes...
Je suis non-voyante, hein?
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le cinéma, il n'y en a pas à Lourdes, hein.
Je suis non-voyante, hein?
Ah ben oui, je sais pas, je peux pas vous dire. Je vois pas, en fait, je vois
pas. Oui, moi non plus. Comment?
Non, excusez-moi. Oh, mais d'ici
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT-FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Que se passe-t-il quand les sexes, les générations et les cultures entrent en collision pour créer une famille vraiment, vraiment moderne? C'est la question que lance le film « Vénus ». Une comédie dramatique de la cinéaste Aïcha Marjara, produite par Joe Ballas. Une femme transgenre qui découvre qu'elle est le père d'un adolescent prénommé Ralph. Présentée en première mondiale dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, Vénus est à Toronto jusqu'au 21 mai au Cinéma Plex Square Dundas. Jusqu'au 21 mai, à ne pas rater. Vénus. Un film magnifique, nécessaire, bouleversant, qui aborde le sujet de transgenre avec vérité de façon directe. La scénariste-réalisatrice de Vénus, Aïcha Marjara, sera des nôtres dès 12h30 aujourd'hui. Vénus, un film à voir absolument.
Mémoire d'un continent.
La voix de Nelson Mandela, c'est le nouveau générique de Mémoire d'un continent. Nelson Mandela, symbole du combat de l'Afrique au XXe siècle, artisan de la grande rupture dans l'histoire de l'Afrique du Sud. L'air très bien connu de Mémoire d'un continent sur lequel nous nous sommes fondés depuis tant d'années, l'air interprété par Manu Dibango deviendra notre générique de sortie. Afrique, la corruption au quotidien. Elikia Mbokolo.
We'll be right back. Et oui, le festival de films a pris fin hier à Toronto, à Cannes plutôt. Il y avait beaucoup de monde sur la croisette et nous remercions beaucoup tous nos collègues de Radio France Internationale, Elisabeth Legoré, Sophie Torlotin. Le coup de cœur des critiques invités de l'émission Tue les cinémas du monde avec Ariel Schweitzer des Cahiers du cinéma, Peter De Bruges de Variety et Taha Chiglakouhi, président d'Archipel Images. Et oui, nous donnent à leur façon leur coup de cœur lors de cette 71e édition du Festival de Cannes. Ça, c'était juste avant la cérémonie de clôture et le palmarès qui sera dévoilé, qui a été dévoilé d'ailleurs hier soir en direct sur RFI.
C'est Peter De Bruges, critique chef de Variety, le journal américain, ici à Cannes. Cette année, j'ai trouvé le niveau des films en compétition très haut en général, mais j'ai pas trouvé nécessairement des chefs d'œuvre dedans. Pour moi, le film préféré du festival, c'était le film d'ouverture de quinzaine, qui s'appelle Un oiseau de passage. Et c'est un film colombien qui parle d'une histoire que j'ai jamais entendue et qui est vraiment dehors, qui parle des Indiens, des natifs qui sont emmêlés dans tous ces crimes pour survivre dans un état hyper pauvre et sans moyenne. Et c'était rendu dans un sens très artistique et très différent. Pour moi, ça, c'est le film avec la vision le plus intéressant et une histoire que j'ai pas su avant je suis venu.
Ariel Schweitzer, des Cahiers du cinéma. J'arrive en fin du festival dans un état avancé de zombitude. On est tous très, très, très fatigués. Mais je pense que c'était quand même une belle édition avec quelques belles révélations en compétition et même dans les sections parallèles. Ma palme idéale, c'est le film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'images, qui est un film extrêmement singulier, qui est une forme de poème visuel ou même audiovisuel, qui parle de l'état du monde, qui parle de la guerre, qui parle de deuil, qui parle du monde arabe d'aujourd'hui. Mais c'est un film tellement singulier qu'on se pose la question s'il parle le même langage que les autres films. À mon avis, le film ne va pas avoir la palme d'or, mais j'espère qu'il aura quand même une palme au palmarès.
Tahar Chiglakouhi, critique de cinéma, président de Archipel Images, une association qui accompagne les jeunes cinéastes en Méditerranée. Moi, j'ai un penchant pour l'Eto, pour le film russe. Yes, спасибо, не пьем. C'est un film qui me paraît effectivement en phase, y compris avec les débats autour, par exemple, la question de la femme. Et ce film est intéressant parce que le sujet qu'il choisit, c'est un sujet qui n'a pas forcément à voir avec la réalité politique, puisqu'il est question de musique, etc. Mais ben, le cinéaste est arrivé à nous faire mieux sentir ce qui se jouait à cette époque-là en Russie, dans les années 80, par rapport à la perestroïka. Et c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement tout ça est perçu à partir d'une femme. On a une bonne lecture très simple, très douce, très subtile de la réalité de cette société là, à cette époque-là, et qui a aussi à voir avec ce qui se passe actuellement, y compris en Russie.
Pourquoi donc la moitié de la planète s'active quand l'autre dort?
En principe, c'est les passagers, c'est eux qui mettent de l'ambiance.
Apportez-moi plutôt une glace. Hein.
Vivez au rythme du monde. Écoutez RFI.
Mais Paris, mais Paris. Mais Paris,
Paris 68 à la lumière du cinéma. Le cinéma tend aux événements de mai 68 un miroir plutôt complice. Ce qui se passe alors dans les usines et les rues déborde largement ce qu'on en filme. Et tous le savent, acteurs comme filmeurs. C'est parce qu'ils sont imparfaits, incomplets, souvent non surplombants, en dépit de l'affichage à des slogans. Les films de mai 68 font aussi voir les limites du geste de montrer. On ne filme pas une lutte depuis l'Olympe. C'est comme si le cinéma renonçait aux toute-puissance du spectacle et n'hésitait pas à avouer l'insuffisance des images et des sons. Mai 68 à la lumière du cinéma, qu'est-ce qui s'invente après 68? Quel vent souffle sur les cinémas du monde? Liberté, sexualité, fraternité, sens du collectif, comment l'énergie politique d'une époque s'est exprimée au cinéma? C'est de tout cela qu'elle sera question dans cette émission un peu spéciale aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Pierre-Henri Delot, chargé de la sélection de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes de 1969 à 1998, Antoine Debecq, historien et critique de cinéma, Catherine Rodet, historienne, auteure de l'ouvrage « Le cinéma militant à l'heure des collectifs » aux presses universitaires de Rennes, et Marceline, dans la deuxième heure, fondatrice de Ciné Franco, Toronto, Canada.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission spéciale consacrée à mai 68. Mai 68 à la lumière du cinéma. Qu'est-ce qui s'invente ces années-là? Qu'est-ce qui se joue dans les films? Quel vent souffle sur les cinémas du monde? Liberté, égalité, sexualité, fraternité. Comment l'énergie politique d'une époque s'est exprimée au cinéma? C'est de tout cela qu'il sera question dans cette émission. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous.
Avec nous pour parler de mai 68 et du cinéma, trois invités. Pierre-Henri Delot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de la quinzaine des réalisateurs, section parallèle et flamboyante du Festival de Cannes, dont la première édition en 69 est célébrée ce mois-ci et jusqu'au 3 mai à la Cinémathèque. Catherine Roudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes Le cinéma militant à l'heure des collectifs. D'ailleurs, je crois que c'était après une thèse consacrée au même sujet.
Oui, c'est ça, soutenue en 2015.
Et Antoine Debecq, vous êtes historien du cinéma, l'auteur de biographies de référence, Truffaut, Romère, Godard, entre autres. Et vous avez dirigé pour les Cahiers du cinéma un petit ouvrage passionnant, c'était en 1998,
hein, il y a 20 ans.
Voilà. Et ça s'appelle Cinéma 68, bonjour.
Bonjour.
T'as une obscure coalition d'intérêts inavouables, le ministre Malraux a fait chasser Henri Langlois de la Cinémathèque française.
À Chaillot, la liberté ne se reçoit pas.
Elle se prend.
Tous ceux qui aiment le cinéma
en France
et dans le monde
sont avec vous.
Sont avec Henri Langlois.
Alors, petit retour hein, via les archives de l'INA sur l'affaire Henri Langlois. Donc, on est avant mai 68, on est en février. Et le vénérable et vénéré patron de la Cinémathèque française, Henri Langlois, est limogé par le ministre de la Culture Malraux. Scandale, cinéaste, cinéphile, intellectuel, affronte la police devant la Cinémathèque. Qu'est-ce qui se joue dans cet affrontement, Pierre-Henri Delot? Vous étiez le chauffeur?
Oui, j'étais chauffeur parce que j'avais une de chevaux. Mais ce qui se jouait, c'est que Langlois est le premier qui a eu l'idée de conserver les films comme on conserve les livres. Personne n'avait fait avant. Il a donc créé cette cinémathèque avant la Deuxième Guerre mondiale, et avec Franju et d'autres personnes. Et tout ça était la mémoire, et en même temps, c'est devenu le père de la nouvelle vague. Parce que des gens comme Truffaut, Chabrol, Godard, etc., ou Doniol, Caste, ne sont pas des gens qui ont fait des écoles de cinéma. Ils ont appris le cinéma en voyant Pudovkin, Eisenstein, Wells, etc. Et donc, ils considéraient Langlois comme leur père. Et lorsque Langlois a été évincé, malgré, il faut bien tempérer ça, malgré la volonté d'André Malraux. M'explique. Quand Malraux est arrivé, il a tout de suite augmenté les subventions que donnait l'État à Cinémathèque. Sauf qu'il arrive un moment où les subventions sont tellement importantes qu'il faut les justifier. C'est quand même des fonds publics. Et dans Langlois, il n'avait pas de livre de compte. Il n'en a jamais eu. Il savait même pas ce que c'était, ou quasiment d'argent. Donc il arrive un moment où le ministère des Finances a demandé le contrôle. Et là, on a découvert que, ben non, il n'y avait pas de livre de compte, il n'y a rien justifié. Et c'est sur pression politique, sur André Malraux, qu'il a dû lâcher Henri Langlois. Autrement dit, plus il lui a donné une subvention, plus il le condamnait presque à mort, je dirais. Et ça, c'est le paradoxe de la chose, parce que Malraux adorait Henri Langlois, et il avait plein d'admiration pour lui. Alors les metteurs en scène qui se sont sentis comme orphelins se sont mobilisés pour le défendre, avec une idée géniale qu'ont eu les cahiers du cinéma à l'époque, qui était d'appeler tous les grands metteurs en scène en leur disant « Retirez votre film, puisqu'en France, il y a le droit moral ». Autrement dit, on ne peut pas présenter un film si l'auteur n'est pas d'accord. Bon, et donc à partir de ce moment-là, les Chaplin, les Orson Welles ont envoyé des télégrammes, et la Cinémathèque se retrouvait avec des supports, des copies nitrate, des copies acétate, pardon, mais ne pouvait plus les montrer. Donc les carottes étaient cuites. Et d'ailleurs, Malraux était très conscient, dès que les premiers télégrammes sont arrivés pour dire « j'interdis que mon film soit montré », il savait que la bataille était perdue, qu'il faudrait faire revenir Henri Langlois. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la première manifestation a eu lieu au Trocadéro, et les metteurs en scène qui s'étaient jamais regroupés ensemble. Metteurs en scène, c'est par définition des artistes individualistes et qui ne s'étaient jamais regroupés en quoi que ce soit. Il n'y avait pas de syndicat de metteurs en scène, alors qu'il y en avait pour les distributeurs, les exploitants et les producteurs, bien sûr. Bon, alors évidemment, les metteurs en scène, c'est pas forcément des grands sportifs. Il y en a un ou deux qui ont pris des coups de bâton sur la tête.
On connaît l'anecdote fameuse de Godard se faisant casser ses lunettes.
Voilà. On lui a mis un peu de mercurochrome pour augmenter en plus le truc, en disant le gouvernement tape sur la culture. Ça s'était jamais vu en France. Bon. Et donc à partir de ce moment-là, les choses n'ont fait qu'empirer.
Évidemment. Donc ça, on est en février 68. Est-ce que on peut dire souvent, c'est présenté comme les prémices de mai 68?
En tout cas, rien qu'une action comme celle-là qui a eu un très fort répercussion, hein, la charge des CRS, des policiers face aux cinéastes et aux cinéphiles, disons, largement regroupés au Trocadéro, ça c'est une action de type mai 68. Hein, c'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est inédit, effectivement. C'est la première fois qu'il y a le monde, disons, de la culture qui fait face comme ça à une sorte de à une forme de répression, disons, policière. Donc ça, c'est... Donc il y a des pratiques qu'on va retrouver en mai 68, que les étudiants sont en train d'expérimenter de leur côté à Nanterre ou dès mars, hein, donc on est vraiment dans des eaux assez proches, et que toute une série de pratiques qui sont des pratiques, disons, de faire face au CRS, se mobiliser, rameuter la population, faire des banderoles, enfin tout ça, hein, ce sont des choses, créer un comité de défense. Voilà, on est devant des pratiques qui sont de l'ordre de ce que la mobilisation de mai 68 va révéler au grand jour. Donc oui, tout ça fait qu'il y a quelque chose qui unit ces deux moments.
Vous écrivez dans un très beau texte publié par Libé, Antoine de Bec, cette révolution qui prend une sonorité avant tout musicale dans les pays anglo-saxons, en France, elle va tourner autour des images du cinéma. Vous dites que c'est les enfants de la nouvelle vague qui descendent dans la rue.
Alors ça, c'est une autre manière d'annoncer 68, si on veut. C'est-à-dire que c'est vrai que tous ces cinéastes et ces jeunes gens sont d'une certaine manière des enfants de Langlois, et aussi des enfants de Langlois, donc de Godard notamment. Je dirais, on peut parler d'une sorte de génération Pierrot le Fou, hein, c'est un film comme ça qui a fait effet de génération, et c'est vrai que à partir de Pierrot le Fou, précisément, Godard se politise de plus en plus, fait intervenir dans son cinéma des formes, je dirais presque, de happening politique, hein, notamment à l'occasion de mobilisations contre l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam, qui font que qu'il y a quelque chose qui monte dans le cinéma de Godard et qui fait effet très fort sur la génération Godard, si on veut. Voilà, il faut se représenter ce que Godard était à l'époque, hein, pour toute une part de la jeunesse. C'était vraiment une sorte de je mettrais de vedette de la culture.
D'ailleurs, je crois qu'il y a des slogans Vive Pierrot le Fou.
Alors en 68, on voit des slogans Vive Pierrot le Fou, mais on voit en face des slogans Godard le plus con des Suisses pro-chinois. Donc jusqu'à 68, il y a une sorte de fusion entre Godard et son public, si on veut, et sa génération. Ensuite, ça va casser, mais.
Ensuite, ça va casser. Pierre-Henri Delot, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces événements, cette affaire Henri Langlois. Est-ce que, au-delà de la mobilisation des cinéastes, est-ce que ça ne révèle pas quand même une sorte de malaise au sein du cinéma français ?
Oui, parce que, faut dire, la nouvelle vague qui avait commencé avant, c'était déjà une fenêtre ouverte sur les rues de Paris, sur les campagnes. Ce n'était plus le cinéma de Jean Delannoy en studio, qui faisait Marie-Antoinette, Notre-Dame de Paris dans des reconstitutions de carton-pâte. D'un seul coup, on voyait la vie. La nouvelle vague, ça a été la vie qui s'introduisait dans le cinéma français. On avait l'impression de respirer. Moi, j'étais à l'époque étudiant à Lille, et les premiers films qui sont sortis, le Beau Serge, les films de Godard, on voyait la vraie vie. Et donc, la révolte de 68 pour remettre Langlois à sa place était effectivement le signe avant-coureur qu'il allait se passer quelque chose. C'était pas une révolution, c'était une révolte contre l'ordre établi, contre l'ordre moral, qui était, on avait la sensation, voilà un pays qui fonctionnait bien, dont le chômage était ridicule, il n'y avait pas 250 000 ou 300 000 chômeurs, et puis c'est tout, et dont le pouvoir d'achat s'accroissait, et puis quelque chose fonctionnait pas. Les gens avaient l'impression d'étouffer. C'est vrai que la télévision, c'était la voix de son maître. Bon, voilà.
L'ORTF. C'était la voix de Gaulle, littéralement même.
Il le disait, Alain Perfit donnait ses instructions au directeur des journaux télévisés. Et alors, l'impression, les gens étouffaient. Puis, ça bougeait partout dans le monde, à Berkeley, en Californie, etc. Et donc, d'un seul coup... il fallait faire exploser le vieil ordre moral. Je crois que c'était surtout ça.
C'était aussi un conflit de génération. Vous parliez effectivement des vieux cinéastes, enfin des académiques, on va dire, par rapport aux jeunes de la nouvelle vague.
Absolument, oui.
Catherine Roudet, est-ce que on parlait là, Pierre-Henri Delot disait effectivement que des jeunes cinéastes qui, par nature individualistes, se sont retrouvés comme ça autour, se sont même peut-être rencontrés à l'occasion de l'affaire Langlois. Est-ce que le collectif, l'idée du collectif naît là, commence ainsi.
Alors, l'idée du collectif, elle naît un peu avant, en fait. Déjà, au niveau des pratiques d'insoumission des cinéastes, on peut remonter quand même à la guerre d'Algérie et même avant aux conflits coloniaux, hein, avec René Vautier et Afrique 50 notamment. Et en 67, en fait, il se passe un projet assez important qui est loin du Vietnam, où autour de Chris Marker vont se fédérer un certain nombre de cinéastes, dont Jean-Luc Godard, mais dont aussi Claude Lelouch, donc des cinéastes beaucoup moins politisés, Yuri Stevens, voilà, une équipe internationale, et qui va se regrouper ses forces avec une centaine, 200 peut-être bénévoles derrière, pour faire un film de soutien au Vietnam assiégé par l'impérialisme américain. On en parlait tout à l'heure. Donc cette idée du collectif, elle est déjà présente à ce moment-là. Elle est déjà très très présente dans l'esprit de Chris Marker, qui envisage déjà de faire un cinéma autrement. Mais elle est présente aussi chez certains petits groupes. Il y a un groupe qui sera très actif en 68 qui s'appelle ARC, l'atelier de recherche cinématographique, qui se fonde en 67 et qui va notamment filmer à Berlin le congrès pour le Vietnam en février 68 autour de Rudy Dutch, qui lui-même sera victime d'un attentat 2 mois plus tard. Et il y a aussi les journalistes de la télévision qui commencent à se rassembler en coopérative, les journalistes de l'ORTF qui seront limogés après la fin de la grève en 68, qui déjà avaient aussi mis en place un regroupement coopératif, celui-là, qui s'appelait le CREPAC, pour produire une information différente. Donc le collectif, il est déjà en germe avant 68. Mais effectivement, 68 va faire fleurir beaucoup, beaucoup de collectifs différents.
Pierre-Henri Delot, tout à l'heure, vous y faisiez allusion, parce que le collectif, c'est aussi les états généraux du cinéma. Je crois que c'est la seule fois que tous les cinéastes français, de toutes obédiences, vont se retrouver dans un même lieu. Oui. Pour se dire, c'est plus possible, on peut plus travailler comme ça, avec cette rigidité, ces cartes, ces commissions,
oui,
etc.
Oui, parce que, je veux dire, il y avait, par exemple, le syndicat des techniciens, bon, qui imposait des cartes. Les metteurs en scène étaient encartés, je dirais. Il fallait avoir fait 3 films comme stagiaire, 3 films comme second, 3 films comme premier pour avoir la carte de réalisateur. Bon. Et donc, souvent, la nouvelle vague, elle a bousculé tout ça. ils se sont retrouvés à rêver de modifier tous les règlements. Donc d'où les états généraux qui ont eu lieu à Suresnes, mais avant il y avait des rencontres pratiquement tous les jours à Vaugirard, à l'école de cinéma à Vaugirard. Et ils sont mis à rêver une sorte de réglementation plus souple, plus, j'allais dire, libre. Et d'un seul coup, quand on a réouvert les pompes à essence au début du mois de juin, tout s'est arrêté net. Et donc, il y a eu une énorme frustration. Et c'est là où, plus tard, Daniel Valcroze a eu l'idée de les regrouper, les metteurs en scène, en créant la Société des réalisateurs de films. D'autant plus que le combat allait continuer, parce que faut pas oublier que c'était un pays où il y avait une censure, on interdisait totalement des films, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de drogue, soit pour des raisons érotiques.
Bon. Deux ans plus tôt, La Religieuse de Rivette, exemplairement.
Que personne n'avait vu, je veux dire, sur pression, j'allais dire, des catholiques intégristes, on dirait aujourd'hui, quoi. Et ce film que personne n'avait vu était interdit parce qu'il y avait une 120 000 bonnes sœurs et curés qui avaient signé une pétition dans l'avoir eu. C'est quand même délirant. Et le paradoxe total, on revient aussi à ce moment-là à Malraux, c'est que c'est Malraux qui désignera le film comme représentant la France au Festival de Cannes, puisque c'était les États qui désignaient leur film. Alors vous voyez que c'est assez contradictoire. Un film interdit qui représente la France, si bien qu'au Festival de Cannes, d'ailleurs à cette époque-là, les citoyens français normaux ne pouvaient pas rentrer dans la salle. Seuls les professionnels pouvaient rentrer dans l'ancien palais, pas les spectateurs. On était arrivé dans un tissu de contradictions énorme. Et donc, les metteurs en scène qui s'étaient regroupés se sont dit, toute l'énergie qu'on a dépensée, tous les rêves qu'on a fait, parce qu'il y avait 16 projets aux états généraux, notamment un projet totalement farfelu, dingue, qui était le cinéma gratuit.
Proposé par oui, Chabrol.
Non, le paradoxe, c'est pas qui c'était Chabrol et Marine Camus. Du côté de l'argent, Marine Camus, c'est quand même drôle. Bon.
Mais alors l'idée de créer la CNAM, donc c'est de créer une sélection où le public peut entrer. Est-ce que c'est pas aussi d'ouvrir la sélection à des pays comme le Mexique, le Brésil, où il se passe des choses extraordinaires dans ces années-là?
Oui, lorsque la SRF s'est créée, d'abord, Daniel Valcroze avait eu l'intelligence d'interdire de faire de la politique au sein de la SRF. On ne parlait que de cinéma. Si bien qu'il y avait des gens de droite et des gens de gauche. Il y avait des communistes, Jean-Daniel Simon, Jérôme Canapa, Pascal Aubier à l'époque, Laurent Hinman. Et puis, il y avait des socialistes, Daniel Valcroze ou Caste, ex-communiste. Bon. Et puis, il y avait des gens de droite. Jacques Deray et Claude Lelouch étaient plutôt à droite, aussi Claude Berry, je dirais. On ne parlait que de cinéma. Donc l'idée a été de proposer des réformes au Festival de Cannes, parce qu'au Festival de Cannes, c'était les pays qui désignaient. On disait l'URSS présente. Donc évidemment, l'URSS envoyait Bondarchuk comme film, ou Gerasimov, mais certainement pas Otario Slani, c'est-à-dire ou du cinéma d'Azerbaïdjan, Kyrgyzstan, etc. Non. Alors il y avait une sorte d'académie, et on a commis Jean-Gabriel Albicoco pour aller proposer des réformes à Fafour-Lebray. Après l'interruption du Festival de Cannes en 68, Fabre-Lebray n'avait qu'une trouille, c'est qu'en 69, il y a encore des troubles. Donc il était prêt à écouter. Et Daniel avait dit, en créant SRF, on va faire de l'entrisme. Puisqu'on n'a pas pu changer le monde, on va essayer de le modifier, de le réformer de l'intérieur. Donc...
Et oui, madame, monsieur, émission spéciale aujourd'hui, c'est mai 68 et le cinéma. Je vous rappelle encore une fois, Palme d'Or hier avec le film Une affaire de famille du cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda. Et nous prenons toujours notre mal en patience avec la grève de la SNCF, mais en chanson.
Vous regardez RTL.
La grève se poursuit à la SNCF. Les usagers sont excédés. Pour leur donner du baume au cœur, nous vous proposons en exclusivité un nouvel album de chansons joyeuses dédié à la SNCF. Univers Rail Music présente Michel Fugain et le Big Bazar à la SNCF.
Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va tout bloquer.
Pour prendre votre mal en patience, laissez-vous bercer par les plus grands succès ferroviaires de Michel Fugain.
Chante, la vie chante, comme si tu devais partir demain. Comme si t'avais un train en partance. Chante, oui, chante.
Michel Fugain chante la grève.
avec son grand succès « Je n'aurai pas le train ».
Je n'aurai pas le train, pas le train, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même sur les mains, je n'aurai pas le train, pas le train.
Des invités prestigieux chantent la grève sur les succès de Michel Fugain. Patrick Bruel, c'est la grève.
Tiens, rien n'a changé ce matin. Il y a peu de train. C'est la grève.
La grève.
Jeunes, vieux, grands et petits. Tout le monde laisse subir.
C'est la grève.
La grève.
La CGT fout le bordel, le Sudrail aussi, c'est encore pareil.
Aujourd'hui, ils vont encore nous emmerder, c'est privilégié, quand on va bosser.
C'est la grève,
la grève.
Avec ce tube incontournable que vous pourrez chanter dans le train à votre contrôleur, à la manière de Charles Aznavour.
C'est comme le cheminot, ça vient d'air pur et de grève, un cheminot, il ne fait jamais la trêve, le cheminot, et pour nous, c'est marche ou crève, mon coco, les cheminots.
Inédit bonus track. Johnny chante Fugain et la merveilleuse histoire d'amour qui unit les usagers à la SNCF.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il voulait rentrer chez lui dans le brouillard. Et le descendait dans le midi.
Le midi.
Ils l'ont pas trouvé en gare, un seul train. Un jour de départ en vacances, ils l'ont vraiment pas eu de chance. Ils l'ont pris tout à l'heure, mais chacun le chemin. En se disant c'est beau la France, et les feignants vont remettre ça demain.
On a beaucoup de plaisir ici, hein. C'est beau la France.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Imagine you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details.
CIUT 89.5 Toronto.
Festival de Cannes, un palmarès de l'émotion et de l'engagement.
Capharnaüm de Nadine Labaki, c'est une plongée dans les bas-fonds de Beyrouth à la suite d'un enfant, d'un petit garçon de 12 ans, Zen. Et c'est sûrement l'un des films ici qui a le plus ému les festivaliers. Il y a eu une standing ovation de plusieurs minutes. Nadine Labaki, en fait, son film, elle a dédié à tous ses enfants des rues de Beyrouth et elle a aussi donné un vibrant hommage lors de la remise de son prix qu'elle a dédié à son pays, le Liban, qui a reçu plus de 4 millions de réfugiés syriens.
Spike Lee sur la croisette, on n'avait pas vu ça depuis 27 ans. Black Klansman s'inspire d'une histoire vraie, l'histoire d'un duo de policiers qui, dans les années 70, vont infiltrer le Ku Klux Klan aux États-Unis. Un duo d'acteurs qui s'en donne à cœur joie, Adam Driver et John David Washington. Mais ce n'est pas simplement une comédie, c'est aussi un film engagé, comme toujours chez Spike Lee. qui met dans son film des images d'archives, des images d'actualité, comme celle des émeutes de Charlottesville en août dernier, où un jeune néo-nazi avait foncé en voiture dans une manifestation antiraciste. Et le film est dédié à la jeune femme victime de cette attaque.
Palme d'or de la délicatesse à Une affaire de famille du japonais Hirokazu Koreeda. L'histoire d'une drôle de famille de voleurs à l'étalage qui va recueillir une petite fille de 5 ans maltraitée. Comme souvent chez Koreeda, les liens d'élection sont plus forts que les liens du sang. Mais ce qui peut sembler au premier abord être une chronique familiale est aussi une charge violente, très subtile et complexe, contre une société moderne qui laisse de côté les plus démunis. Donc Palme d'or du cœur également pour beaucoup de festivaliers pour Une affaire de famille.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Eh oui, mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur la croisette. C'est ma dernière journée aujourd'hui. Et j'essaie de trouver des amis canadiens. Est-ce qu'ils sont là, les Canadiens, les Québécois? Les Français, oui, il y en a beaucoup. Où sont les cinéastes étrangers, les Africains par exemple?
La présidente du jury, Kate Blanchett, Léa Seydoux, Denis Villeneuve, Kat Janine, Kristen Stewart, l'ensemble des membres du jury du 71e Festival de Cannes réunis ici, sur les hauteurs de la ville, pour un grand aïoli provençal. C'est la tradition du festival qui est respectée. Pendant ce temps, sur la croisette, un acteur, un immense acteur, est en guerre. C'est le nouveau film de Stéphane Brisé, concourant pour la Palme d'Or. On retrouve Vincent Lindon.
Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous?
Oui, le groupe, il a tenu ses promesses.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais,
voilà. Écoutez,
non, mais c'est sans appel.
Bonjour Vincent Lindon.
Bonjour.
Incroyable en guerre. Hein, en compétition ici au Festival de Cannes, Stéphane Brisé. Et c'est un film en immersion dans une espèce de dramaturgie sociale avec un personnage que vous incarnez et qui va se battre jusqu'au bout.
Qu'est-ce qu'il faut faire à des êtres humains pour qu'ils oublient tout et que leur sang-froid soit dépassé par cette fureur, cette colère et qui tout d'un coup donne lieu à la violence?
Ouais, ouais.
Jusqu'où il faut aller? Jusqu'où la société va? Pas seulement oui. Jusqu'où la société, jusqu'où le monde, comment est fabriqué ce monde pour qu'à un moment, des forts puissent entraîner des faibles à se mettre autant en faute,
oui.
Autant en erreur.
Mais c'est ça. Mais c'est la guerre, en fond. C'est le titre
oui,
du
c'est
film.
Ça
c'est la guerre.
Mais ce qui est intéressant dans le film, je ne vais pas en faire la publicité, les gens décideront ce qu'ils veulent, c'est que si c'est pour faire un pamphlet et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, eux vraiment ce qu'ils font c'est pas bien, et regardez ce qu'ils font à ces pauvres syndicalistes, à ces pauvres travailleurs, à ces pauvres ouvriers salariés, ça n'a pas d'intérêt.
Oui.
Ce qui est intéressant dans le film, c'est que si vous le revoyez un jour, vous verrez, quand vous écoutez tous les partis, que ça soit un patron, que ça soit un DRH, oui.
Surtout
ça soit
la logique,
chaque fois qu'on oui. en écoute un, chaque fois qu'on en écoute un, on a une petite bête là, une petite bête sur l'épaule qui vous dit, qui vous parle, et on a envie de dire non mais c'est pas idiot hein, ce qu'il dit là, je comprends. Hein.
Oui.
Et tac, il y en a un autre qui parle, fait, attends, parce que oui, mais là c'est vrai aussi, il faut reconnaître.
C'est, oui.
Mais c'est la complexité de la vie.
Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Vincent Lindon sur la Croisette hier soir avec son film très très bien accueilli à Cannes. Je suis en guerre à Cannes. Tout au long du mois de mai, CUTFM consacre son antenne à mai 68, 50 ans après. Divers rendez-vous avec des invités, des témoignages, des partenaires pour nous faire revivre l'histoire. Y a-t-il eu de vrais films en mai 68? Peut-on parler d'un vent de liberté sur la 7e art? Engagés, insurgés et surtout solidaires, en 68, des cinéastes tournent au cœur des luttes, de l'intérieur même des événements. Mai 68 est non seulement leur sujet, mais plus encore leur projet, celui d'un cinéma collectif, partie prenante de l'histoire. Rarement montrés, voire occultés, ces films sont inestimables. Où était la fondatrice de Ciné Franco en mai 68? Était-elle sous les pavés ou au cinéma? Était-elle en jupon, en culotte courte ou en robe longue? Où était-elle? Et je pense qu'on l'aperçoit de très loin, de Nice, en duplex, Madame Marceline, bonjour.
Bonjour Eric.
Alors, quel temps fait-il à Toronto?
Alors, ici, il y a du soleil, oui. C'est un peu frais. Je pense que c'est entre 17 degrés, comme ça. Et donc, je ne suis pas encore sortie parce
Je ne vous ai pas vue sur la croisette hier, ni au château de Windsor.
Ah non.
Clooney, il y avait beaucoup de gratins, de la culture.
Et effectivement, mais je ne fais pas partie de ce gratin-là et je ne le regrette pas, en tout cas.
Mais vous ratez des contacts quand même, il faut faire du réseautage.
Oui, hein.
Quand
vrai.
On est dans le monde du cinéma,
ça,
il faut faire
vrai.
Du réseautage.
C'est vrai, il faut faire du réseautage.
Oui.
Ça, vous avez tout à fait raison. Et pour répondre à votre question, où étais-je en mai 68?
Oui.
Eh bien, j'étais sur le point de passer mon baccalauréat et je me promenais en camion militaire entre Sarcelles et le lycée Lamartine où j'étudiais. J'étudiais pour mon baccalauréat. Et quand je l'ai eu au mois de juin 68, au mois de septembre-octobre 68, j'entre à la Sorbonne. Et là, je découvre bien sûr les manifestations, les discours politiques. Et c'est à ce moment-là que je décide d'aller en Chine pour passer ma vie. Donc, je commence à apprendre le mandarin quand on m'accepte au Langzhou, à la Sorbonne, et donc je deviens maoïste.
Eh bien.
Voilà. Alors, du coup, je fais ma demande pour aller à Nankin parce qu'il y avait un échange entre la Sorbonne et Nankin, et deux fois je me fais rejeter. Alors, je décide de développer mon anglais. Hein? Et là, je vais dans un parti totalement, enfin, non pas un parti, mais dans un pays capitaliste, du coup. Alors, voilà, ça c'était l'histoire en deux mots, si j'ose dire. Mais aussi, j'ai pas vraiment été militante parce que j'ai eu des amis qui ont été gravement blessés par les CRS. J'avais une peur bleue des CRS. De temps en temps, je m'adonnais à, je dirais, à des discours, à des interventions, mais j'avoue que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Étant d'un milieu extrêmement modeste, d'un milieu, je dirais, même ouvrier, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait.
Vous venez d'une famille puritaine?
Un peu, oui, oui.
Parce que c'était quand même, 68 a eu un impact sur la culture, sur les mœurs, sur les arts. Et c'est pour cette raison qu'on parle du cinéma. On ne pouvait pas passer à côté, faire cette émission sur le cinéma sans
vous adresser la parole.
Oh, monsieur,
et donc on est vraiment très chanceux de vous avoir avec nous.
Merci.
Et c'est aussi d'avoir ce regard de loin,
oui, oui,
des
oui.
gens qui sont, vous avez entendu peut-être dans la première heure, tous ces cinéastes, ces écrivains
oui, oui.
qui ont parlé avec, c'est des vrais témoignages, hein. Nous sommes chanceux de les avoir.
Absolument.
Et parce que même si on n'est pas français, qu'on ne vivait pas en France à
oui,
l'époque,
oui.
où nos parents, nos amis ne vivaient pas en France, il y a eu des répercussions.
Absolument.
Mai 68, parce qu'il y avait des étudiants africains, des
oui.
étudiants mauriciens, des
oui.
étudiants américains. Et là, il y avait une propagation
oui,
de
oui.
cette idée de liberté,
absolument.
D'évolution politique et sexuelle, n'est-ce
dans
pas ?
Dans toute l'Europe, d'ailleurs.
Oui.
Enfin, moi, j'étais dans le théâtre, en fait. Hein. Je faisais partie d'une troupe théâtrale qui s'appelait Hipponeumeute 14. Et c'était sur le boulevard Raspail, je me souviens, et on essayait de percer en tant que professionnel. Et je me souviens, on se disait, mais le monde du spectacle est pourri, il faut qu'on essaye d'être sur scène. Et on essayait, je me souviens, on se disait, bon, on n'a pas les relations, les qu'il faut, etc. Et on a lutté, on a fait un petit peu des tournées en France avec des spectacles sur, etc. Et du coup, on n'a jamais percé parce que nous, on a pensé, malgré que les révolutions, désir de révolution de mai 68, la pourriture est toujours restée là. Il fallait avoir des gens qui vous pistonnent. Il faut aller, voilà.
Mmh.
Donc nous, on a été un petit peu notre troupe théâtrale n'a pas vécu le rêve de mai 68.
50 ans après, oui. l'événement politique de 1968 a inspiré de nombreux réalisateurs.
Oui, oui.
Focus sur les films qui ont traité cette rébellion, qui s'est même invitée au Festival de Cannes cette année. Nous allons entendre brièvement un reportage de l'émission Chicha, présenté par Laurie Cholewa.
Des âgés, des slogans, des étudiants aux cheveux longs, ces images qui tournent en boucle depuis mai 68 ont été récupérées partout, jusqu'au dernier spot de pub d'une grande marque de luxe.
Tous les pavés à la plage, des étudiants avec des grandes mèches qui ressemblent tous à Lou Garrel. C'est une révolte menée à bout de bras par une jeunesse intello qui finit par devenir un mythe marketing géant.
50 ans après les faits, mai 68 continue d'infuser la pop culture, même s'il ne reste pas grand-chose de sa subversion d'origine.
C'est une grève qui est la plus grande grève du monde, un mois, 10 millions de grévistes, et forcément ces gens deviennent des clients ou des spectateurs.
Mai 68 est partout, jusqu'au Festival de Cannes. Sur la croisette, l'hommage passe par la présence en compétition de Jean-Luc Godard, symbole vivant de cette époque contestataire.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes un héros.
Mai 68 et Godard étaient déjà en tête d'affiche à Cannes l'an dernier dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius.
Oui, le sens dans les règles, oui. Et alors ?
Une tentative de désacralisation qui n'avait pas plu à tout le monde.
J'ai du mal à le voir comme autre chose qu'un film se moquant de cette situation-là.
Alors que faire de cet héritage si présent, voire pesant dans notre inconscient collectif ? Comment mai 68 a-t-il révolutionné le cinéma ? Que reste-t-il de mai 68 dans les salles obscures ?
Et oui, les photos, les affiches sont nombreuses et même célèbres. Or, l'idée est fausse au regard d'un certain nombre de films qui étaient disponibles, mais ni vus ni considérés. Comment expliquez-vous cela, Marcel ?
Moi, je crois aussi... Bon, c'est vrai, je vous parlais des camions militaires parce qu'il y avait la grève, mais notre priorité, en fait, pour nous qui luttions, et je parle à un niveau individuel... C'était pas tellement le cinéma, c'était pas d'aller voir au cinéma une réflexion de ce qui se passait ici, dans notre vie, parce que n'oubliez pas quand même que, enfin, moi je me souviens que on était au bord quand même d'une guerre civile, que on nous avait dit, bon, à Sarcelles, je crois que notre maire c'était Strauss-Kahn, la Dominique Strauss-Kahn, qui nous disait on va avoir une guerre civile. Il venait nous voir de temps en temps dans les rues et disait allez acheter de la farine, allez acheter du sucre, allez acheter du café, parce qu'on ne sait jamais. Donc on était, si si vous voulez, à l'époque même, hein, je parle de l'époque, le cinéma n'était pas nécessairement notre souci premier. Par contre, les années après, à ce moment-là, on a eu le temps de réfléchir. On a eu le temps de voir quels étaient les impacts et les non-impacts. Et on a des films comme 120 battements par minute, par exemple, qui parlent justement, par exemple, du sida, de ACT, de ACT UP, et qui donne une essence de l'atmosphère de ce qu'on a vécu en 68. Il y a aussi le film Né en 68 d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. On peut nommer des tas de films comme Le Redoutable, justement. Mmh. On peut aussi nommer il y a des films comme Mourir à 30 ans, Tout va bien, Après mai, même Milou en mai de Louis Malle, il a été fait en 1990.
Et Bernardo Bertolucci, The Dreamers.
Voilà,
aussi.
Oui, c'est ça, Les Innocents a été fait à une autre. Donc, on voit qu'il y a il y a certainement un gros impact de 68 sur les films. Comme on dit à la RFI que vous avez passé, bien sûr, il y avait la nouvelle vague, il y avait tout ce qu'on avait, on essayait de se détacher de ce vieux cinéma un peu poussiéreux, mais en même temps, je crois que la réalisation de ce qui s'est passé en 68 a commencé à dérouler sa bobine vraiment que quelques années après. Et maintenant, bon, 50 ans après, on peut voir Le Redoutable. Je crois qu'il joue au TIFF en ce moment, d'ailleurs, et que j'ai vu, moi je trouve que c'est un regard humoristique sur Godard, en particulier, qui, je crois, était passé un peu à côté de la révolution, justement, de 68. Il y a aussi Nocturama. Nocturama que je n'ai pas vu, mais dont j'ai vu justement la bande-annonce, mais j'ai lu de très très bonnes critiques de Bonello. Qu'est-ce que je peux vous dire? Milou en mai, j'avais vu Après mai d'Olivier Assayas aussi. Tous ces films, justement.
Mes Amours de 68, c'est un film de Koran Pachavelik, je pense. Et aussi, parmi les titres ressortis des Limbes, figure La Belle Ouvrage de Jean-Luc Magneron, principalement composé de témoignages sur les brutalités policières, dont la sortie était le 25 avril dernier.
Oui, oui.
Court-métrage à Paris mai 68 de Eddy Khalifat et Charles Maton, longtemps considérés comme perdus, et surtout en salle. Et ce film sort est dans les salles depuis le 2 mai dernier. Oui. Panneau, oui, ne passera pas, de Daniel Jaigi et Audi Rousse,
oui. Oui.
Alors aussi étudiant à l'époque à l'IDHEC. Et puis il y a un petit livre qui vient de paraître aux éditions Yellow Now, Les fantômes de mai 68, composé d'images tournées durant les événements par deux autres étudiants de l'IDHEC, Michel, oui, Andrieux et Jacques Cabadian, qui compose le film Le droit à la parole, qui figure dans le coffret des éditions Montparnasse. Ça paraît, c'est à lire absolument très, très,
très intéressant.
Bien fait.
Oui, oui, non, ça, je n'étais pas au courant, mais je feuilletais également parmi des films qui ont été faits sur, justement, 68 et son impact dans le monde entier. Le film In the Intense Now, par exemple, lui aussi est fait d'extraits de témoignages pris pendant la révolution et en particulier au Brésil qui a fait un très beau film qui a été bien critiqué, mais dans le bon sens du terme.
Alors, il faut aussi admettre qu'avec la révolution de mai 68, il y a eu une libéralisation de la pensée, de la parole, de l'expression. Et au niveau des images, la façon dont on traitait les images avant mai 68, ou bien avant mai 68, c'était un peu plus puritain, parce qu'il faut dire que la religion, l'Église avait mainmise sur la culture à l'époque. Et ça, on oublie souvent que l'Église, même au Québec, dans le milieu francophone, les gens qui vivaient à l'époque des années 40-50 savaient très bien qu'il fallait avoir presque la bénédiction de leur curé pour savoir combien d'enfants on allait avoir, pas ? Combien d'enfants qu'on allait envoyer comme missionnaires à l'étranger, n'est-ce pas ? Et donc, il y avait cette individualité aussi qui existait, et certains témoignages qu'on a pu entendre la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu comme une libéralisation des mœurs où les gens voulaient vivre non pas seuls chez eux, entre eux, en famille, mais en communauté.
Oui, oui, moi je crois que c'est la fameuse, le fameux mouvement hippie, justement, et soit est né ou bien a été renforcé justement par cette, ce désir de vivre en communauté et aussi de protester. Je pense au film Les Amants réguliers, par exemple, de protester en France contre le service militaire. Il y a bien sûr eu la guerre du Vietnam qui a créé un tollé de protestations, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Donc c'est un vent de protestation, c'est un vent de révolution en effet pour contrer toutes les contraintes qu'on a eues à supporter pendant toutes nos vies. Enfin, bon, moi j'avais à peine 18 ans, mais je sais que effectivement, on regardait quelques années après, ou même au théâtre, et c'est vrai que l'approche de la sexualité était quand même différente.
Vous avez aujourd'hui, par exemple, d'ailleurs, elle nous écoute en ce moment sur Internet, nous allons recevoir la grande cinéaste photographe de Montréal, Aisha Marjara, qui nous présente son film sur le sujet transgenre, le film Vénus, qui se joue ici à Toronto.
Oui, oui.
50 ans avant ça, on n'aurait jamais, jamais pu, Marcel, vous et moi, projeter un film sur la sexualité, l'homosexualité, le transgenre.
Absolument. Mais regardez Cannes hier. Pour la première fois dans le monde, par exemple, sur la liste des prix de Cannes, on voit Queer Palm, Girl.
Oui.
Alors ça c'est une récompense qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur un journal, officiel.
Voilà.
On en parlait, et les gens se chuchotaient, oh, le Queer Palm, mais là, officiellement, voici toutes les récompenses. Je trouve ça extraordinaire.
Et le cinéma, on en a besoin, parce que le cinéma, la culture, fait avancer le débat.
Oui.
Le débat des idées. Alors moi qui fais la navette entre la France et Toronto, malgré moi, je vois que cette révolution de mai 68, 50 ans après, il me semble, c'est toujours inachevé. On sent encore des palpitations dans l'air en France, là où je passe, les universités, à Rennes.
Oui.
Madame Ledoux, vous avez vu qu'il y a eu des problèmes incroyables avec la SNCF.
Mais
ça
oui.
se poursuit encore. Mais d'ailleurs, elle aimerait bien vous rencontrer. Hein.
Ah, bon. Moi, j'aimerais bien aussi la rencontrer.
Elle sera à Toronto cet été.
C'est bien.
Alors, mais elle est handicapée.
Moi aussi, à 85%, mais je suis voyante quand même.
Alors, est-ce pour terminer en 2 secondes, parce que j'aimerais clôturer avec le décalage horaire, malheureusement.
Oui, oui.
Est-ce que cette révolution est inachevée?
Oui, parce que entre 68 et maintenant, les choses ont évolué. Il y a la fameuse révolution, contre-révolution, re-révolution. Oui, c'est inachevé. Regardez, par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue sexualité, l'homophobie qui existe dans tous les... Non, pas tant.
Et le racisme aussi.
Et le racisme.
Écoutez, dans un restaurant huppé, aujourd'hui, en 2018, au plein cœur de Paris.
Oui, oui, je sais. Mais regardez, un des prix, je crois, d'un certain regard du meilleur scénario, le film, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 20 ans dans un hôpital casablancais qui a un enfant hors mariage et qui doit présenter dans les 24 heures des papiers attestant du nom du père de l'enfant. Mmh. Alors, est-ce que ça, c'est une révolution ?
Vous avez aimé le choix du jury pour le Palme d'Or ?
Ne connaissant pas tous les films, je dois dire que je comptais surtout sur les médias.
Capharnaüm, je pense que vous avez aimé.
Capharnaüm, oui, oui.
Alors, rapidement, on me dit que vous avez aussi des prévisions qui s'en viennent. Vous avez une, je pense, Ciné Franco et le Labo. Qui invite les téléspectateurs, les cinéphiles, les auditeurs de la région de Toronto à une programmation de courts-métrages dans le cadre de Doors Open Toronto.
Oui, c'est ça, Portes Ouvertes.
Ouais.
C'est le thème de Portes Ouvertes de Toronto cette année, c'est le cinéma. Ils disent le romantisme, mais nos courts-métrages sont faits par des artisans du cinéma franco-ontarien, des courts-métrages expérimentaux, pour certains, pas pour tous, un petit peu le pouls de ce qui se passe ici à Toronto avec Jacqueline Jean-Baptiste et son film sur la francophonie à Toronto. On a Morte-Terre de Zéfred, par exemple. On a un très beau film expérimental d'Emmanuel Albano qui s'appelle Frames. On a besoin que de ses yeux là pour regarder justement ce qu'il en fait.
Du 26 au 27 mai prochain, d'ailleurs les gens peuvent aller sur votre site www.cinefranco.com/fr événement et là vous allez avoir l'adresse et tout. Et puis aussi je sais on aura l'occasion d'en parler du 14 au 22 juin, il y aura le festival du film italien à Toronto du 14 au 22 juin, madame monsieur, à ne pas rater. Je sais que le lundi 18 juin à 20h, vous allez projeter le film Dalida, n'est-ce pas ? Cinéplex Cinéma à Vannes.
Oui, exactement.
Alors, vous voyez, il y a du pain sur la planche, comme on dit.
Il y a beaucoup de pain sur la planche.
Écoutez, de la part de toute l'équipe et mes amis qui sont ici avec moi sur la croisette, on aimerait bien, vous applaudir. On n'a pas de palme d'or, mais quand même. Et on se revoit bientôt à Toronto, cher Marcel.
Merci beaucoup.
Au revoir et bonjour à toute la famille.
Merci. Bon séjour en France.
Merci.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ai, maman, voilà le voyage.
Adra bella cosa, ding et dong.
Non, attends,
ding et dong.
CIUT-FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers, les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Amis de la planète, bonjour. Dans le cadre d'une conférence des Nations Unies consacrée aux petits États insulaires qui vient de se tenir à l'île Maurice, des petites îles menacées par la montée des eaux ont accusé les pays industrialisés d'éco-terrorisme. Un message fort pour dénoncer les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète qui menace en toute première ligne des petites îles comme les Maldives, Tuvalu, les îles Marshall ou par exemple la République de Kiribati avec ses 90 000 habitants.
Que se passe-t-il quand les sexes, les générations et les cultures entrent en collision pour créer une famille vraiment moderne? C'est la question que lance le film Vénus, une comédie dramatique de la cinéaste photographe Aisha Marjara, produite par Joe Ballas. Une femme transgenre qui découvre qu'elle est le père d'un adolescent prénommé Ralph. Présentée en première mondiale dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, Vénus est à Toronto jusqu'au 21 mai au Cineplex Cinema Square Dundas. Eh oui, Vénus, un film magnifique, nécessaire, bouleversant, qui aborde le sujet de transgenre avec vérité, de façon directe. La scénariste réalisatrice de Vénus, Aisha Marjara, sera à nos micros dans quelques instants. Voici la bande-annonce du film.
Kid, I've seen you following me around for the past couple of days.
You're Sid Gill?
Yeah. You're my dad.
It's here again.
You dated my mom. Why did you guys break up?
That's complicated.
You're a transgender?
Yeah.
That is so cool. Are you still Indian?
By this age, you should be married. You should have a family.
It's funny that you mentioned that, Ma. I have a son. Surprise!
Ralph.
What kind of bakwas name is that?
I will call you Rajinder. His skin and bones. Look at him.
Are you hungry?
Oui, Vénus, qui est sous-titré en français, bien sûr. Forte de son expérience en photographie, mon prochain invité est scénariste, réalisatrice. Elle vit à Montréal. Elle s'est fait connaître avec The Incredible Shrinking Woman, un film satirique à plein d'esprit qui lui a permis de faire ses preuves en tant que scénariste, directrice photo et réalisatrice. Mais c'est avec son documentaire Desperately Seeking Ellen, en l'an 2000, créé en collaboration avec l'ONF, l'Office National du Film, qu'elle s'est forgée une réputation de cinéaste avant-gardiste. Décrit comme étant l'un des premiers films les plus prometteurs de la scène canadienne, cette œuvre a reçu le prix de la critique au Festival international du film de Locarno et le prix du jury au Festival international du film documentaire de Munich. Ensuite, son œuvre germano-canadienne « The Tourist » en 2006 a été mise en nomination pour le prix du meilleur court-métrage au Female Eye Film Festival de Toronto, puis le drame transgenre House for Sale en 2012 a reçu plus de nombreux prix dans divers festivals du film internationaux.
faut le faire. La cinéaste montréalaise s'est fait connaître aussi avec The Incredible Shrinking Woman, comme je vous l'ai annoncé, un film satirique. Mais aussi, j'aimerais parler d'un autre domaine où elle a, on peut s'en souvenir un peu de ses œuvres. Remember Me Not, un projet photographique et essai émouvant sur la tragédie du vol 182 d'Air India. Vous vous souvenez, je me souviendrai toujours où j'étais, à Montréal d'ailleurs, quand cet accident s'est produit. Et ce film, ce projet photographique a été présenté dans l'édition automne 2013 au magazine Descantes. Et Marjara a également signé son premier roman intitulé Fairy, à propos d'une adolescente aux prises avec le problème d'anorexie. Elle a récemment terminé Vénus, une nouvelle comédie dramatique produite par Joe Ballas au sujet d'une femme transgenre qui découvre qu'elle est le père d'un adolescent de 14 ans. Ce film est à l'affiche à Toronto en ce moment. Et encore une fois, je vous rappelle que je suis en duplex. Mesdames, messieurs, accueillons pour la première fois Aisha Marjara, réalisatrice et scénatrice. Eh oui, bonjour Aisha, cela me fait plaisir de vous recevoir à nos micros pour la première fois.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation.
Oui, alors j'adore ce film et d'ailleurs vous dites c'est l'histoire qui brise les barrières entre les gens et permet de se reconnaître dans la vie des personnages. Le thème central de ce long métrage, c'est ce désir d'amour, d'intégration qui répond à une valeur universelle pour tous. Vous dites que Vénus a été tournée à Montréal et sous-titrée en français, comme je l'ai dit. Quel a été l'élément déclencheur, Aisha, pour monter ce film?
Oui, c'était mon court-métrage que j'avais fait en 2012, House for Sale. Ce film-là avait un personnage transgenre, puis à ce point-là, je voulais faire un long métrage inspiré par ce court métrage, mais Vénus a pris une trajectoire pas mal différente, mais j'ai plongé profondément dans l'expérience des personnes transgenres. J'étais très passionnée par les défis que les gens transgenres
Et c'est un sujet qui fait débat, hein. Dans le monde scolaire, par exemple, comment on s'y prend quand on a un élève qui est transgenre dans sa classe?
Oui.
Et avec tous les préjugés que ça comporte et les défis, il y a du harcèlement, hein?
Oui, oui, exactement. Pour tout le monde, c'est une expérience avec beaucoup de défis. Puis, mais je voulais pas. Je voulais pas un film qui était sur la transition physicale, médicale du personnage. Je voulais un film qui, au sens de personnage transgenre, mais quelqu'un qui, comme nous autres, qui a des problèmes avec leurs parents, problèmes avec son amoureux. Donc, je voulais avoir quelqu'un qui est une femme qui est transgenre, pas quelqu'un qui est transgenre.
Qui est en transition. Vous voulez comme si normaliser.
Exactement, oui.
La vie. Alors, la diversité sexuelle, Aisha, dans le cinéma est encore malheureusement assez rare. Mais comment expliquer votre audace de faire un film sur le sujet transgenre impliquant par-dessus le marché une famille indienne?
C'est ça la différence. Je ne pense pas que je suis audace en faire ce film. Je pense que c'est ça, que c'est une expérience normale pour moi, dans ma perception en tout cas. Et quand on voit ça sur l'écran, je pense que les autres vont avoir la même expérience que moi je vois dans la vie. Je vis à Montréal. À Montréal, c'est très multiculturel. Il y a des personnes qui sont de plusieurs religions, pays, Donc, dans ma vie quotidienne, je vois ça toujours. Donc, c'est normalisé pour moi.
Oui. Est-ce que j'ai vécu à Montréal, on pourrait dire que sans faire de la distinction des mœurs entre Montréal et Toronto ou Vancouver, mais est-ce qu'on pourrait dire que Montréal, quand même, c'est la ville où il y a une plus grande liberté au niveau de la pensée, d'expression et liberté sexuelle?
C'est ça que j'ai vécu, moi, oui. Il y a des problèmes, il y a la discrimination partout, mais je pense que les Montréalais sont beaucoup plus à l'aise à la diversité sexuelle et des différentes formes d'expression de genre.
Alors, petite récapitulation, parce que pour les auditeurs, surtout ceux qui nous écoutent sur Internet à l'étranger, au mois de juin 2017, le projet de loi sur les transgenres a été adopté par une écrasante majorité de sénateurs au Canada. Ça, c'est l'année dernière. Hein?
Ah,
en Inde, chaque année, des transgenres se réunissent au temple de Kuvagam, au Tamil Nadu, pour revivre une épopée de la mythologie hindoue. En 2014, le festival a été auréolé d'une victoire, car la Cour suprême a conféré, en Inde toujours, a conféré aux transgenres le droit de s'identifier en un troisième genre. Ailleurs dans le monde, seuls l'Australie, l'Allemagne et le Népal ont pris des mesures similaires. En Inde, paradoxalement, l'article 377 du Code pénal criminalise l'homosexualité, mais les transgenres bénéficient désormais des aides sociales et des emplois réservés aux défavorisés. C'est incroyable.
Incroyable, oui. L'Inde, c'est un pays de contradictions partout.
Oui. Alors, depuis 30 ans que je suis à l'antenne de la radio de l'Université de Toronto, on a entendu toutes sortes d'histoires parce que nous sommes une porte ouverte et on accueille tout le monde. Et je pense que la radio peut être un élément de débat, de faire avancer les idées, n'est-ce pas, les débats d'idées. Donc, malheureusement, nous avons reçu des témoignages des fois assez choquants, y compris dans notre soi-disant très belle communauté francophone et accueillante. Des personnes LGBTQIA, par exemple, nous ont dévoilé plusieurs reprises à l'antenne ou encore hors antenne qu'ils subissent malheureusement encore des défis énormes pour pouvoir bien vivre et s'intégrer dans la communauté. Qu'en est-il des personnes, sur les personnes transgenres plutôt, que vous avez rencontrées lors des projections de Vénus, que ce soit à Montréal ou à Toronto ou ailleurs?
Pour moi, j'ai rencontré des gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de diversité dans la communauté transgenre, c'est pas homogène. C'est ça que je voulais aussi rencontrer dans le film, parce que dans mon film, il y a une professionnelle, une architecte qui est bien placée dans la société. C'est pas quelqu'un qui travaille dans le sex trade. C'est une réalité de beaucoup de femmes transgenres. Mais je pense qu'on peut voir qu'il y a plein d'expériences des gens qui sont transgenres. Et quand on fait des mouvements pour la progression, il y a toujours un backlash. Et on peut voir ça parce que la violence contre les transgenres, elle vit maintenant plus qu'avant. Et je pense que c'est la réponse de la progression que les gens ont faite dans la société.
Il faut rappeler aux gens que la vie n'est pas rose hein, pour tous les gens. Je me souviens il y a quelque temps de cela, je pense que c'était l'année dernière, oui, en 2017, mai 2017. Mm-hmm. On se souvient, peut-être vous connaissez la BDiste montréalaise Sophie Labelle.
Oui,
elle a été la cible d'une attaque informatique.
Oui.
L'adresse de son domicile a même été dévoilée publiquement par des internautes. Le lancement de livres que cette jeune auteure transgenre devait faire dans une librairie à Halifax au mois de mai 2017 a été annulé en raison des menaces haineuses.
Oui.
C'est pour cette raison que je voulais vous poser la question. Comment votre film est reçu au Canada ou par les critiques, que ce soit les médias francophones ou anglophones?
C'était très bien reçu. Je suis tellement heureuse de la réponse, mais en particulièrement la réponse de la communauté transgenre. Mmh. Le film a été présenté dans un festival en Allemagne, un festival transgenre, puis on a pris quelques prix. Les comédiens de Borgo Sagna, qui joue la femme transgenre, et a reçu un prix de la meilleure performance trans dans ce festival. Et Jamie Myers, qui joue le petit gars, a aussi reçu un prix. Et je suis très heureuse. Mmh. Les gens disent que c'est rafraîchissant, c'est pas douloureux, puis lourd et dramatique. Ils n'ont jamais vu un film comme ça qui représente un personnage transgenre.
Il y a aussi Pierre-Yves Cardinal, qu'on connaît bien, hein, qui joue dans ce film.
Oui,
parlez-nous justement un peu des vedettes de ce film.
Oui, c'est très international. Nous avons des comédiens qui viennent de partout. Zina Darwala vient de Vancouver. Gordon Warnocky, si vous ne connaissez pas, il était dans un film iconique queer qui s'appelle My Beautiful Laundrette. Il a joué contre Daniel Day-Lewis. Mm-hmm. Dans ce film, nous avons DeBargo qui vient de New York, Jamie est Montréalais et Pierre-Yves aussi Montréalais. Donc nous avons aussi des comédiens trans dans le film. Donc, on est très heureux d'avoir un casting très divers.
Et est-ce que, ici à Toronto, depuis que le film est à l'affiche au Dundas Square, hein, Cineplex?
Oui, Dundas et Yonge.
Oui, et quelle est la réaction du public et quel est le profil du public? Est-ce que c'est des gens canadiens pur laine, des immigrants nouveaux arrivants, des jeunes, des transgenres?
On est surpris, il y a beaucoup de jeunes qui aiment ce film. Et non, c'est des blancs, pure laine. Il y a beaucoup, mais c'est très mixte.
Ouais.
C'est quelque chose, c'est très accessible.
Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, hein, quand je parle de ces sujets, ils me disent, je ne pourrais pas y aller, je ne veux pas me faire voir en public, mais par contre, je vais écouter l'émission. Je vais peut-être aller en cachette pour voir le film quand même, mais je veux aller incognito. Alors, on sent que les gens sont curieux quand même, mais il y en a encore certains qui sont mal à l'aise. Il n'y a rien à être mal à l'aise, n'est-ce pas?
Mais c'est faux. Il faut pas, s'ils ont vu le bande-annonce, ça peut changer leurs idées. Hein.
La scénariste, réalisatrice, photographe, madame, monsieur, nous sommes chanceux de vous avoir avec nous, Aisha Marjara. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se voir en personne.
Et le
micro est ouvert, hein, vous. Quand vous avez des projets, vous avez d'autres initiatives, envoyez-nous un petit courriel ou sur Facebook. Cela va nous faire plaisir que vous soyez n'importe où dans le monde entier, en Afrique, à Vancouver ou en Inde, Pakistan ou à Montréal. On peut vous appeler. On a les moyens. Et donc, je rappelle aux gens que le film Vénus est projeté en ce moment jusqu'au 21 mai, n'est-ce pas?
On espère plus longtemps.
Ah oui, très bien.
Oui.
Alors, encore une fois, c'est Dundas Young Square, c'est le cinéma, Cineplex Cinéma, madame, monsieur, et allez voir ce film. C'est rafraîchissant, je pense. C'est un sujet que vous traitez avec beaucoup de vérité, de façon directe. Et aussi, c'est traité avec respect.
Oui.
C'est ça que je trouve formidable dans ce film. C'est fait avec... souvent, des fois, dans les films, on voit des prototypes, des stéréotypes qu'on veut soumettre, et ça crée encore plus de préjugés.
Oui.
Mais là, on sent qu'il y a une certaine vérité. C'est quelque chose qui pourrait arriver dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre école, notre milieu du travail. Et je pense que c'est un film qui va quand même créer des débats. J'espère que, avec cette projection ici à Toronto, que les gens vont changer un peu leur mentalité, surtout ceux et celles qui sont un peu bornés. Je rappelle aux gens que l'année dernière, Aisha, il y avait des employeurs, une vingtaine d'employeurs, qui étaient à un salon, une première à Toronto, salon de l'emploi pour les personnes transgenres et non binaires. Et c'était un succès incroyable. L'événement était organisé par Trans Workforce, une première au pays, organisé par Biko Bota, réfugié transgenre du Kenya. et elle veut ultimement amener un changement systémique dans les milieux de travail. Et elle dit, je cite, « Trouver un emploi quand on est transgenre est tout un combat. »
Oui. Mmh.
Alors, donc, votre film est en train de rentrer dans le débat, de changer peut-être les mentalités. J'espère que les employeurs seront aussi parmi les cinéphiles de votre projection.
Ah oui.
Vous avez deux projets, en deux mots?
Oui, je travaille sur un drame avec le même producteur, mm-hmm. Joe Ballas, mm-hmm. qui s'appelle Calorie. Et dans ce film, je regarde la tragédie, le vol Air India.
Ah oui.
Oui, mais c'est un film contemporain. Et au centre du film, c'est une mère et ses filles adolescentes et les conflits dans la mère et fille. Donc, c'est un film, je pense, c'est temps de revisiter pour moi, en tout cas, parce que le sujet de tragédie est encore dans les nouvelles. Puis, je veux retourner à ce sujet-là.
Aisha Marjara, je vous remercie et au nom de toute l'équipe, on vous applaudit bien fort pour vous remercier de votre passage à l'émission et bon succès pour la projection de votre film. On se reparle très prochainement.
Merci.
Au revoir et à la prochaine.
Au revoir.
Des manifs, des âgés, des slogans, des étudiants aux cheveux longs, ces images qui tournent en boucle depuis mai 68 ont été récupérées partout, jusqu'au dernier spot de pub d'une grande marque de luxe.
Tous les pavés de la plage, des étudiants avec des grandes mèches qui ressemblent à des amis.
Et oui, madame, monsieur, rapidement, je vous rappelle que le 23 mai prochain, il y aura une conférence de la Société d'Histoire de Toronto à l'Alliance Française de Toronto. Le sujet, le thème, réévaluation des ruelles de Toronto, animé par Michèle Senaya, urbaniste, conceptrice urbaine. Et vous pouvez aller sur le site de l'Alliance Française pour avoir des renseignements. C'est le 23 mai prochain. Et du 23 mai au 3 juin, on en a parlé, il y aura ce festival de gay Inside Out à Toronto. Cela vous intéresse, nous avons des billets pour aller au cinéma. Pourquoi pas aller sur le site www.insideout.ca/initiative/Toronto. Je pense qu'il y a des films en français dans la programmation. Et du 26 au 27, comme on l'a annoncé, Ciné Franco et le Labo vous invite à porte ouverte de programmation, projection de courts-métrages francophones à Toronto, présenté par le Great Golf, www.cinéfranco.com/fr/événement pour tout savoir. Dimanche prochain, ne pas rater, connaissez-vous l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne? Et oui, je ne plaisante pas. Nous allons recevoir en exclusivité une grande dame de la francophonie, Mariette Muller, elle est présidente directrice générale de la World Trade Center de Winnipeg. J'ai hâte. Et puis, quoi encore? Le début des ateliers du Wapikoni. Le Wapikoni, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de cinéastes, de réalisateurs qui aident les communautés autochtones, surtout les jeunes autochtones, partout au Canada. Donc, il y aura de la visite, des formations, des projections à Vancouver, Montréal, Thunder Bay. Et donc, vous allez sur le site www.wapikoni.ca. Si cela vous intéresse, on pourrait organiser une petite tournée ici à Toronto. Je dis un grand merci à DJ Devera, Marcel Lin de Ciné Franco et tous les amis de Radio France Internationale, Aisha Marjara de Film Vénus. Merci d'avoir été là. Bonne chance. RFI sur la croisette, le journal Express de Toronto. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. À ne pas rater. Bon dimanche. Et bonne semaine.
Ale mununa makwatiza, nifanya chakuzai, naramari chani. Kara fali ya ani tu Kimaleko mapata chani yeta yeta mbuku
na wizare hejiza bahamari falana My friend Malimbo,
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 my friend Malimbo.